إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude de l'épître Les leçons importantes pour toute la communauté de l'imam Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Nous en sommes à la leçon 17 que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé Avertissement contre l'association, le polythéisme et les péchés. Donc après nous avoir exposé les nobles caractères et les bonnes conduites islamiques desquelles le musulman doit se parer, le cheikh rahimahullah ta'ala attire notre attention au sujet de choses blâmables desquelles le musulman se doit de s'écarter. Il a donc dit rahimahullah ta'ala, on doit prendre garde et avertir contre l'association et les différentes sortes de péchés. Mais dites sur sa parole rahimahullah ta'ala, on doit prendre garde, c'est-à-dire que tu prends garde pour toi-même. Tu prends garde à ne pas tomber dans ces péchés qu'il va mentionner. Et également, tu avertis contre cela. C'est-à-dire que toi-même, tu mets en garde les autres. Après avoir compris le danger de ces choses, tu mets en garde tes proches, ta famille, et ainsi de suite, contre l'association, contre le shirk, ainsi que les différentes sortes de péchés. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, parmi eux, les 7 grands péchés destructeurs qui sont l'association à Allah, la sorcellerie, tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, si ce n'est de droit, la pratique de l'usure, manger injustement les biens de l'orphelin, déserter lors du combat face à l'ennemi, accuser de fornication les croyantes chastes et innocentes. Donc ces 7 grands péchés que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, ce sont les 7 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Écartez-vous, c'est-à-dire éloignez-vous, des 7 péchés destructeurs. » Puis il mentionna ces 7 péchés que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés ici. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que les grands péchés sont seulement au nombre de 7? La réponse est qu'ils sont bien plus nombreux que cela. Et comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, ils sont même plus proches de 70 que de 7. Donc le musulman, de manière générale, il se doit de s'écarter des grands péchés. Et si tu t'écartes des grands péchés, alors Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, te pardonnera tes petits péchés. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, « In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an, nukaffir ankum sayyi'atikum. » Si vous vous écartez des grands péchés qui vous sont interdits, alors nous expirons pour vous vos mauvaises actions, c'est-à-dire vos petits péchés. On a déjà vu dans les cours précédents que dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que certaines actions effacent les péchés. Il dit d'une prière du vendredi à l'autre, du mois de Ramadan à l'autre, ceci expie les péchés qui sont commis entre eux, à condition de s'écarter des grands péchés. Donc celui qui s'écarte des grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses mauvaises actions, lui pardonne ses petits péchés. Quant aux grands péchés, si quelqu'un tombe dans un péché parmi les grands péchés, alors il lui incombe de se repentir de celui-ci. Et ce en respectant les conditions du repentir que nous avons déjà mentionnées dans des cours précédents et qui sont le fait de délaisser ce péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, de les cesser immédiatement, d'avoir des regrets pour le passé, d'avoir la ferme volonté de ne plus y retourner et de réparer les torts causés si tort il y a. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné en premier l'association à Allah, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci est le plus grave des péchés. Et on a déjà vu dans la leçon 4, qu'est-ce que le polythéisme, qu'est-ce que l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, et quelles sont ses différentes sortes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde sévèrement contre ce péché, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce car c'est le plus grave des péchés, et la plus grave des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au sujet de Luqman, qui a dit s'adressant à son fils, « Ya bunaya la tushrik billah, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car certes le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah, est une injustice immense. Et comme on a dit, c'est le plus grave des péchés. Comme il est venu dans le hadith, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous informerai-je pas au sujet des plus grands des grands péchés, c'est-à-dire les plus graves des grands péchés? Ils lui ont dit, mais si, au messager d'Allah. Alors il commença par dire, le fait de donner des associés à Allah. Ceci est donc le plus grave des grands péchés. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du plus grave des péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, c'est le fait que tu donnes à Allah un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. Et ce hadith également est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Et on a vu que le shirk, le polythéisme, celui qui meurt sur celui-ci sans s'en repentir, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. Comme il dit dans son noble livre, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. En vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, et il pardonne à qui il veut en dessous de cela. Et celui qui meurt sur le polythéisme, alors l'entrée au paradis lui sera interdite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas entrer au paradis. C'est impossible. Et sa destination, son refuge, sera le feu de l'enfer. On voit donc que les textes, nous démontrant la gravité du polythéisme, ils sont très nombreux. Et que l'auteur du polythéisme est sous ces menaces sévères s'il ne se repent pas avant de mourir. Et entre dans cela, sous cette menace, toute personne qui voue une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un qui se prosterne pour autre qu'Allah, qui s'incline pour autre qu'Allah, ou alors qui fait un sacrifice pour autre qu'Allah. Et de la même manière, ceux qui invoquent autre qu'Allah, qui implorent l'aide et le secours d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Tout ceci fait partie du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre garde au polythéisme, de s'écarter de toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle relève de l'association majeure qui fait sortir son auteur de l'islam, ou alors qu'elle relève de l'association mineure, à l'exemple de l'ostentation dans les œuvres, de la recherche des compliments et des éloges des gens, ou encore le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui jurent sur la vie de leurs parents, sur la Kaaba, ou autre chose sur lesquels les gens jurent, au lieu de jurer par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà mentionné un certain nombre de ces points dans la leçon 4, et vous pouvez y revenir, incha'Allah ta'ala. Le deuxième des grands péchés qui nous est mentionné dans ce hadith, c'est la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est une chose subtile qui consiste, par exemple, à faire des nœuds, des incantations, ou alors à prononcer des paroles ou les écrire, ou à faire certaines œuvres qui ont une influence, un impact, sur le corps de la personne ensorcelée, ou alors sur son cœur, ou sur sa raison, sans que le sorcier n'ait de contact direct avec cette personne. Et ceci est une réalité, qui est démontrée par les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est une chose concrète que les gens peuvent observer de leurs yeux, et ce jusqu'à nos jours, Allah al-Musta'an. Toutefois, il faut savoir que le sorcier, il n'est pas en mesure de causer du tort à qui que ce soit, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne peuvent nuire à personne, si ce n'est par la permission d'Allah. Car tout ce qui arrive dans ce bas monde ne se produit que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs les uns par les autres. Donc la sorcellerie, elle relève de la mécréance, c'est-à-dire que sa pratique, son enseignement, ainsi que son apprentissage, sont de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Suleyman n'a pas mécru, mais les démons ont mécru. Pourquoi ils ont mécru? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Il ne l'enseigne à personne, si ce n'est après lui avoir dit, nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'écrois pas. On voit donc à travers ce verset que l'enseignement et l'apprentissage de la sorcellerie relèvent de la mécréance majeure qui fait sortir la personne de la religion de l'islam. Et le sorcier, en plus de sa mécréance, il est la cause de nombreuses nuisances sur les gens, que ce soit sur leur corps, sur leur santé, ou même sur leur raison, sur leur cœur. Et c'est pour cela que la peine du sorcier en islam, c'est la peine capitale, comme cela est rapporté de nombre des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, à l'exemple de Umar, sa fille Hafsa, la mère des croyants, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou encore Jundub ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Prendre garde à la sorcellerie, prendre garde aux sorciers, et prendre garde au fait de les consulter. Et de la même manière, il n'est pas permis de consulter les voyants ou les devins, ni même de les croire. Celui qui consulte un voyant, pour lui demander, par exemple, s'il va réussir à un examen, ou ce qui va lui arriver, s'il peut faire ce voyage, s'il va réussir à se marier avec telle ou telle personne, et ainsi de suite. Même s'il ne le consulte que par curiosité, il a commis un grave péché et sa sanction, s'il ne le croit pas, si ce n'est que de la simple curiosité, et que ses prières ne seront pas acceptées durant 40 jours. C'est-à-dire que pendant 40 jours, il lui incombe de prier, mais il n'a aucune récompense pour ses prières. 40 jours, ceci nous montre la gravité de ce péché. Et s'il le croit, s'il croit ce devin, s'il croit ce voyant, alors il mécroit en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith. Et entre dans cela le fait de lire ce qu'on appelle les horoscopes. Personne, en fonction de son signe, de sa date de naissance, va lire certaines annonces, ce qui va lui arriver aujourd'hui, ou cette semaine, ou cette année. Et il se peut que le musulman pense que le fait de lire ces choses sans y croire soit sans aucune gravité. Mais en réalité, si tu lis cet horoscope, alors c'est comme si tu avais consulté un voyant. Si tu n'as fait cela que par simple curiosité, tes prières sont rejetées durant 40 jours. Mais si tu crois en ce qui est mentionné dans cet horoscope, alors tu as mécru en ce qui a été révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Enfin, parmi les points importants à mentionner à ce sujet, il y a le fait que celui qui est éprouvé par la sorcellerie, c'est-à-dire qui a été touché par celle-ci, qui est ensorcelé, il ne lui est pas permis de consulter un sorcier qui retirera ce sort. Car cela est une chose qui est répandue chez les gens. Par exemple, on l'informe que telle personne lui a jeté un sort. Alors il se rend chez le sorcier ou chez un autre sorcier afin qu'il retire ce sort. Et ceci n'est pas permis. Mais ce qui incombe à la personne qui est éprouvée par cela, c'est d'avoir recours aux causes légiférées lui permettant d'obtenir la guérison. Comme par exemple, en faisant la ruqya, en se récitant elle-même du Qur'an, surat al-Fatiha, les trois dernières surat du Qur'an, également, parmi les plus grandes causes de guérison, contre la sorcellerie, ou même contre les autres maux comme le mauvais œil et autres, il y a le fait d'être assidu dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et écarter de tout acte de désobéissance, et de tout lieu où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par être assidu à tes obligations, et en faisant suivre cela d'œuvres surrogatoires. Et également le fait d'être assidu aux formes de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux différents moments de la journée lorsque cela est légiféré. Et notamment, les adhkars du matin et du soir. Les adhkars après les prières obligatoires. Les adhkars en entrant chez toi, en sortant de chez toi. Les adhkars avant de manger, après manger, et ainsi de suite. Celui qui est assidu à cela, et qui en plus de cela, se fait ruqya, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et place sa confiance en lui, alors bi'idhnillah, il obtiendra la guérison. Ensuite, le troisième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est le fait de tuer l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, si ce n'est de droit. En effet, le meurtre, cela fait partie des grands péchés en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a. » Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Comme s'il avait tué tous les hommes. Vous vous rendez compte de la gravité de ce péché? Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée, c'est-à-dire qu'ils se combattent, alors le tueur et le tué sont en enfer. Le tueur est celui qui a été tué. Les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, en ce qui concerne le tueur, son affaire est claire. Mais qu'en est-il du tué? Pourquoi celui qui s'est fait tuer va en enfer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il désirait tuer son compagnon. Il désirait le tuer. Mais il a été tué avant de pouvoir atteindre son objectif. C'est lui qui a perdu. Mais il avait cette intention. Et pour cette intention, alors, il est en enfer. Les savants ont dit que ce hadith est une preuve que celui qui a l'intention de commettre un péché, mais qui ne réussit pas à le commettre, il ne réussit pas à atteindre son but, alors ce péché lui est inscrit. Pourquoi? Car il avait l'intention de le faire, il avait cette ferme volonté, mais il en a été empêché, il n'a pas eu les moyens de commettre ce péché. Mais s'il les aurait eus, il l'aurait commis. C'est pour ça que ce péché lui est inscrit contre lui. Quant à celui qui se remet en question et revient à Allah subhanahu wa ta'ala, se rend compte que ce péché est une mauvaise chose et qu'il doit la délaisser, puis qu'il la délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de son châtiment, alors celui-ci, il n'a aucun péché, incha'Allah ta'ala, au contraire, il est récompensé pour avoir délaissé ce péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le quatrième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est la pratique de l'usure. L'usure, cela consiste par exemple, lors d'un prêt, à réclamer une somme supérieure à celle qui a été prêtée. Par exemple, une personne a besoin de se faire prêter 1000 euros. La personne lui dit, je te prête 1000 euros, tu me les rends dans 6 mois. Par contre, lorsque tu me les rends, tu me rends 1100 euros. Tu me rajoutes 100 euros pour ce prêt. Ceci est l'usure qui est interdite et qui fait partie des grands péchés. Et elle a différentes formes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'usure si vous êtes croyant. Et si vous ne le faites pas, si vous ne délaissez pas l'usure, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Une guerre de la part d'Allah et de son messager. Tu te rends compte de cette menace sévère? Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de la gravité de ce péché. Sous divers prétextes, il va faire un crédit auprès de la banque pour s'acheter une maison, s'acheter une voiture ou faire un commerce ou autre. Il ne se rend pas compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé une guerre de sa part. Et qui est capable de rentrer en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers? Ensuite, cette personne va s'étonner d'être touchée par divers malheurs durant sa vie. De ne pas trouver la quiétude, de ne pas trouver l'apaisement, de ne pas trouver le bonheur. Comment peux-tu trouver la quiétude, le bonheur et l'apaisement si tu vis dans le péché, wallahu al-musta'an? Le musulman, il doit donc prendre garde à cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Ceux qui mangent, c'est-à-dire qui pratiquent l'intérêt usuraire, ne se tiendront que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Lorsqu'ils sortiront de leur tombe, ils seront comme des personnes possédées, des personnes atteintes de démence, wal'iyadu billah. On voit donc que ce n'est pas un péché insignifiant, mais que c'est une chose très grave. Et l'intérêt usuraire, il ne doit pas être comparé au commerce. Car il y a certaines personnes, ils disent, lorsque je vends un objet, je l'achète 100, je peux le vendre 110. Pourquoi lorsque je prête 100, je ne peux pas récupérer 110? La réponse, elle est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah a rendu licite le commerce et il a interdit l'usure. Il a interdit le riba, tout simplement. Et en tant que croyant, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Nous avons entendu et nous avons obéi. De plus, il faut savoir que l'intérêt usuraire, contrairement à ce que pourrait penser celui qui le réclame et celui qui en vit, il ne fait pas fructifier ses biens. Au contraire, Allah a anéanti ses biens, les prive de toute bénédiction. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. Allah anéantit l'intérêt usuraire. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Et il fait fructifier l'aumône. Lorsque tu donnes une aumône, cela fait fructifier tes biens. C'est-à-dire que c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse tes biens et t'accorde encore de sa subsistance. Tandis que l'intérêt usuraire, qui en apparence est une augmentation des biens dans les chiffres, en réalité elle les anéantit. Elle les prive de toute bénédiction. Donc comme vous le voyez, les textes au sujet de l'intérêt usuraire sont très clairs. Que ce soit les prêts de la manière que l'on a mentionné, ou alors le fait de placer ton argent en banque, dans un compte épargne, pour en obtenir des bénéfices en fin d'année, tout ceci relève de riba. Et il y a certaines formes qui échappent à beaucoup de gens. De ce fait, nombre de musulmans tombent dans celles-ci sans même s'en rendre compte. À titre d'exemple, il y a ce qui est lié au découvert dans les comptes en banque. Vous connaissez certainement ce qui est appelé le découvert, qui te permet d'avoir un solde inférieur à zéro. Lorsque le solde de ton compte descend en dessous de zéro et que tu ne réapprovisionnes pas ton compte rapidement, qu'est-ce qu'il se produit? La banque te réclame ce que l'on appelle des agios. Et ces agios, c'est quoi? C'est riba. C'est l'usure. C'est ce surplus qu'ils te réclament en raison de ce prêt. Car le découvert, c'est quoi en réalité? C'est de l'argent qu'ils t'ont prêté. Si tu as découvert de 200 ou 300 euros, c'est comme s'ils t'avaient prêté 200 ou 300 euros. Et ensuite, ils vont te réclamer quoi? Ils vont te réclamer des agios, ils vont te réclamer l'intérêt. Tu vas donc leur rendre la somme plus l'intérêt. L'intérêt usuraire. Donc celui qui fait ça, il est tombé dans ce grave péché. Également, cela peut avoir lieu via les cartes de paiement. Les cartes qui valide les paiements sans vérification de l'approvisionnement du compte ou non. Vous savez, lorsque vous faites un paiement par carte bleue, il y a certaines cartes qui vérifient que l'argent est bien présent sur le compte avant de valider. Et il y en a d'autres qui valident immédiatement le paiement, sans même vérifier si le compte est approvisionné ou non. Si le compte est approvisionné, alhamdoulilah, et s'il n'est pas approvisionné, qu'est-ce qu'il se passe? La personne passe à découvert, ou alors on lui réclamera un surplus en raison de ce paiement avec son compte non approvisionné. Et ceci est de l'intérêt usuraire également. Une personne pourrait se dire, j'ai cette carte, mais je fais très attention. Je ne l'utilise que si j'ai la certitude que j'ai de l'argent sur mon compte. Nous lui disons alors, n'as-tu pas signé un contrat pour obtenir cette carte? La réponse, bien évidemment, est oui. Tu as signé un contrat avec la banque. Dans ce contrat, n'est-il pas mentionné cette clause d'intérêt usuraire? En signant, n'as-tu pas accepté cette clause? La réponse est oui, tu as accepté cette clause. C'est donc pour cela que c'est interdit. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'usure, celui qui mange al-riba, c'est-à-dire celui qui le reçoit, qui reçoit l'intérêt usuraire. Et il a maudit également celui qui le fait manger, c'est-à-dire celui qui le paye. Lorsque tu fais un prêt à la banque, que tu empruntes de l'argent, tu payes l'intérêt usuraire. Tu entres également sous la malédiction. Et il a maudit également les deux témoins, ceux qui témoignent de cela, qui témoignent de ce prêt, qui témoignent de ce contrat, et celui qui l'écrit, celui qui écrit ce contrat de prêt. Tous entrent sous la malédiction. Wallahu al-musta'an. Donc le musulman, il doit prendre garde à ce grave péché qui est aujourd'hui très répandu dans les sociétés. Et tu dois savoir que la plupart de leurs transactions, peu importe le nom qu'ils leur donnent, que ce soit cadeau de bienvenue, ou intérêt, ou frais de dossier ou autre, dans la plupart des cas, se cache derrière cela une forme de riba, une forme d'usure. Le musulman, il doit donc être attentif, car tout leur système financier est basé sur ce grave péché. Wallah al-musta'an. Le cinquième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith est le fait de manger injustement les biens de l'orphelin. C'est-à-dire le fait d'utiliser ses biens de manière injuste. L'orphelin, il se peut qu'il ait un héritage de son père. Il a donc de l'argent. Celui qui le prend en charge, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis des biens de l'orphelin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, et ils brûleront bientôt en enfer. Ceci est donc un grave péché. Celui qui a la charge des biens de l'orphelin, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de cela. Car s'il utilise ses biens de manière injuste, de manière interdite, alors ceci fait partie des grands péchés. Toutefois, celui qui prend en charge un orphelin et qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, et que cet orphelin a des biens, alors il lui est permis d'utiliser une part de ses biens, et ce, de manière convenable. Ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf » Quant à celui qui est pauvre, alors qu'il en mange de façon convenable, c'est-à-dire qu'il prend de ses biens ce qui lui suffit, et ce, sans excès. Le sixième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith est le fait de déserter lors du combat face à l'ennemi. Donc le fait de déserter, lorsque les deux troupes se rencontrent, que les musulmans font face à leur ennemi, lors de la guerre et du combat, alors ceci fait partie des grands péchés. Car c'est une forme d'abandon des musulmans, et c'est un affaiblissement de la force des musulmans. Il est donc obligatoire à celui qui se retrouve dans cette situation de faire preuve de patience et de ne pas déserter lors du combat. Enfin, le septième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, c'est le fait d'accuser de fornication les croyantes chastes et innocentes. Et ceci est un grave péché qui est malheureusement aujourd'hui très répandu chez beaucoup de gens, car ils pensent que ceci est une chose insignifiante, ne se rendent pas compte de la gravité des mots. Alors que l'auteur de ce grave péché, qui est la diffamation, le fait d'accuser un musulman ou une musulmane de fornication, son auteur a reçu des menaces sévères par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Inna alladhina yarmouna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi dunya wal-akhirah wa lahum adhabun azim. » Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et insouciantes, c'est-à-dire qui ne pensent même pas à la turpitude, et croyantes, ils sont maudits, ici-bas et dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Ils sont maudits ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala les menace d'un énorme châtiment. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire 4 témoins, c'est-à-dire 4 témoins qui ont vu de façon oculaire l'acte réellement, non pas simplement 2 personnes ensemble, mais ont vu le détail de la relation intime. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire 4 témoins, quelle est leur peine? Fouettez-les de 80 coups de fouet. Et n'acceptez plus jamais leurs témoignages. Et ceux-là sont les pervers. Tel est donc le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le diffamateur. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé qu'il méritait 80 coups de fouet. Et ceci revient au juge islamique, dans un état musulman, de lui infliger cette sentence. Son témoignage est rejeté. Son témoignage est rejeté, c'est-à-dire que ses paroles ne peuvent pas être acceptées. S'il rapporte des faits au sujet d'une chose, sa parole est rejetée, car son témoignage est rejeté d'après les textes du Coran. Et la troisième chose qui nous est mentionnée dans le verset, c'est que c'est un pervers, un fasiq, d'après le texte du Coran. Ceci nous montre donc la gravité de la diffamation. Il a donc ces 3 choses, et en plus de cela, comme on l'a vu dans le verset précédent, il est maudit ici-bas et dans l'au-delà, et il est sous la menace d'un énorme châtiment dans l'au-delà, wal-iyadu billah. Après cela, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas grave d'avoir commis de la diffamation. Ils pensent que c'est un simple péché. Ils vont te dire, oui, mais peut-être qu'il était en colère, sa langue a fourché. Quoi qu'il en soit, il a commis ce grave péché. Celui qui commet ce péché lui incombe de se repentir. Pourquoi persiste-t-il sur le péché? Alors qu'il lui suffit de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître qu'il est un menteur, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grave péché. Et de manière générale, il faut savoir que c'est un grave péché d'offenser les croyants et de les accuser de ce dont ils sont innocents. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes et les accusent de ce dont ils sont innocents, les accusent de choses qu'ils ne méritent pas, ils se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Il est donc obligatoire pour le musulman de préserver sa langue de la calomnie, de la diffamation, car ceci est un grave péché. Il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Après cela, après nous avoir mentionné ces 7 péchés destructeurs, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, et parmi les grands péchés, il y a la malfaisance envers les parents. De la même manière que la bienfaisance envers les parents fait partie des meilleures actions. par lesquels le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inversement, la malfaisance envers eux est un des plus graves péchés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné immédiatement après l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. On a mentionné tout à l'heure le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous informerai-je pas au sujet des plus grands des grands péchés ?» On a mentionné en premier le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, puis il dit « La malfaisance envers les parents ». Et cela est plus large que la simple désobéissance. On trouve souvent traduit « l'uquq » par la désobéissance aux parents. Ce n'est pas simplement le fait de leur désobéir qui est visé, mais toute malfaisance entre dans ce grand péché, que ce soit par une mauvaise parole, un regard méchant, le fait de ne pas les aider, le fait de dire ou de faire quelque chose qui leur nuit, qui leur cause du tort. Tout ceci entre dans la malfaisance de laquelle le musulman se doit de s'éloigner. Il dit également, rahimahullah ta'ala, la rupture des liens de parenté, c'est-à-dire le fait, comme on le dit familièrement, de couper les ponts avec quelqu'un de sa famille. Ceci est un grave péché. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « N'entrera pas au paradis celui qui rompt le lien de parenté. » N'entrera pas au paradis celui qui rompt le lien de parenté. Ceci est une menace sévère. Et entre dans cela le fait de leur causer du tort, le fait de ne pas leur venir en aide, de ne pas être bienfaisant envers eux. Tout ceci fait partie de la rupture des liens de parenté. Et certaines personnes disent « Oui, mais j'ai des proches qui sont mauvais, ils me causent du tort. N'ai-je pas le droit de rompre les liens avec eux ?» La réponse nous a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. « S'ils sont mauvais, patiente. Continue d'être bienfaisant de ton côté. Fais ce qu'il t'incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'attends rien en retour. N'attends pas qu'ils soient bienfaisants. L'essentiel est que toi, tu fasses ce qui plaît à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. » Il convient donc de persister dans cela, de faire preuve de patience et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné le faux témoignage. Le faux témoignage également, cela fait partie des grands péchés. Témoigner d'une chose qui ne s'est pas produite, témoigner d'une chose qui n'est pas vraie, altérer les faits, tout ceci fait partie des grands péchés. Dans le hadith que l'on vient de mentionner, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe des plus grands des grands péchés, il a dit « L'association à Allah, la malfaisance envers les parents, et la parole fausse et le faux témoignage. » Ceci est un grave péché. Car entre dans cela si tu médites de nombreuses injustices. Celui qui fait un faux témoignage, premièrement, il a menti. Deuxièmement, il a causé du tort et de l'injustice à celui contre qui il a témoigné. Troisièmement, il a aidé celui en faveur de qui il a témoigné dans son injustice. Il l'a donc mené à réaliser cette injustice. Et quatrièmement, il lui a rendu permis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Par exemple, une personne prétend qu'une autre lui doit de l'argent. Et cette autre personne jure que ce n'est pas vrai. L'autre vient avec des faux témoins. Ils disent « Venez témoigner qu'elle me doit 1000 euros. » Et cela, comme c'est leur ami, ils viennent, ils témoignent. Parce que ce n'est pas grave. Oui, c'est vrai, elle lui doit 1000 euros. Ceci est donc une chose de laquelle le musulman doit s'éloigner et prendre garde. Ne pense pas que sous prétexte que ce ne sont que des mots, cela est sans gravité. Mais cela fait partie des grands péchés. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné les faux serments. C'est-à-dire de jurer en mentant. L'imam muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a trois personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne parlera pas au jour de la résurrection, ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. » Il mentionne ensuite « Celui qui vend sa marchandise par le fait de jurer en mentant. » Trouve cela chez beaucoup de commerçants. « Est-ce que ceci est un bon produit de qualité ?»« Ah oui, wallahi, c'est de la qualité, wallahi, il marche très bien. » Et ainsi de suite. Et il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que son produit n'a pas de défaut, que son produit est de bonne qualité, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui parlera pas au jour de la résurrection. Il ne le purifiera pas et il aura un châtiment douloureux. Ce nous montre la gravité de jurer en mentant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith rapporté par l'imam muslim également, « Celui qui jure afin d'obtenir les biens d'un musulman, il jure d'une chose qui n'est pas vraie pour extorquer les biens d'un musulman. » Alors il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah est en colère contre lui. Généralement, il doit donc prendre garde et comme on l'a vu dans le cours sur les nobles caractères, être véridique dans ses propos. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné la nuisance au voisinage. On a vu que le musulman se doit de faire preuve de bienfaisance envers ses voisins. Et de la même manière, il doit prendre garde à ne pas leur nuire. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Le répéta trois fois. On lui dit alors: qui donc, au messager d'Allah? Il dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ceci nous prouve que la nuisance au voisinage s'oppose à la perfection de la foi. Et dans une version rapportée par Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne rentrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, n'est pas à l'abri de sa nuisance. Donc tu dois prendre garde à ne pas nuire à ton voisinage, ne pas leur causer du tort, ne serait-ce qu'avec ta langue. Un jour on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme priait la nuit et jeûnait le jour, et faisait de nombreuses œuvres et faisait des aumônes. C'est-à-dire qu'en apparence, elle faisait beaucoup d'œuvres de bien. Mais on lui a dit: mais elle nuit à ses voisins par sa langue. Elle prie la nuit, elle jeûne le jour, elle fait des aumônes, elle fait beaucoup d'œuvres de bien. Mais avec sa langue, elle nuit à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun bien en elle, elle fait partie des gens du feu. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. On lui a ensuite dit: et cette femme, en parlant d'une autre femme, prie ses cinq prières obligatoires et ne cause de tort à personne. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: elle fait partie des gens du paradis. On voit donc à travers ce hadith la gravité de la nuisance au voisin. Et le fait de ne pas lui nuire, comme on a dit, cela fait partie de la perfection de la foi. Dans un autre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: l'injustice envers les gens, qu'elle soit liée au sang, au bien ou à l'honneur. L'injustice également, cela fait partie des grands péchés. Soit une injustice sur le sang, sur les biens ou sur l'honneur, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'injustice sera source de ténèbres au jour de la résurrection. Pense à cela avant de commettre une injustice. Rappelle-toi que cette injustice sera pour toi source de ténèbres au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il n'y a de voie que contre ceux qui sont injustes envers les gens et commettent des abus sans droit sur terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Le musulman doit donc prendre garde à l'injustice. Et comme l'a mentionné l'auteur, que cette injustice soit liée au sang, ou alors qu'elle soit liée au bien de la personne, ou alors qu'elle soit liée à son honneur. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: le musulman tout entier est interdit pour le musulman, c'est-à-dire qu'il est sacré. Son honneur, ses biens et son sang. Tout cela est sacré. Tu dois donc prendre garde à ne pas être injuste envers tes frères et sœurs. Dans un autre hadith, toujours rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne le méprise pas. Tu ne méprises pas tes frères et sœurs non plus. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam: il suffit à un homme comme mal de mépriser son frère musulman. Simple fait de le mépriser, ceci est une chose mauvaise. Donc de manière générale, le musulman doit prendre garde à toute forme d'injustice. Préserver le sang, les biens et l'honneur de ses frères et sœurs parmi les musulmans. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné la consommation de boissons enivrantes et les jeux de hasard. En effet, le fait de consommer des boissons enivrantes, ceci fait partie des grands péchés. Et entre dans cela les drogues qui sont présentes aujourd'hui, quelles qu'elles soient. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute chose qui enivre est interdite. Toute chose qui enivre est interdite. Il incombe donc aux musulmans de s'en éloigner. Que ce soit de l'alcool, ou que ce soit de la drogue, sous une quelconque forme, comme elles existent aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que celui qui consomme des choses enivrantes, alors il a un engagement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le fera boire de la sueur et du pu des gens de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Ya ayyuhal ladina amanu, innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijasun min amali shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, ne sont qu'une abomination, une œuvre du diable. écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la médisance. La médisance, qui comme est venue dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de mentionner ton frère par une chose qu'il réprouve. C'est-à-dire que tu parles de lui en son absence, en mentionnant une chose qu'il n'aimerait pas que tu dises sur lui. Et ceci fait partie des grands péchés. Et c'est ce qu'on appelle la médisance. Et certaines personnes pourraient dire, oui, mais si ce que je dis sur lui est vrai. Alors la réponse nous est venue dans le hadith également. Un homme s'est levé et a dit, vois-tu, ô messager d'Allah, si ce que je dis sur mon frère est réel. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce que tu dis sur lui est réel, tu as certes médit sur lui. Et si ce que tu dis sur lui est faux, tu l'as certes calomnié. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On a déjà parlé dans des cours précédents du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de l'ascension des gens avec des ongles de cuivre qui se déchiraient les visages et les poitrines. Il a alors demandé à Jibril alayhi salam qui sont ces gens. Il lui a dit ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et transgressaient leur honneur. Qui mangeaient la chair des gens pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a comparé dans son noble livre la médisance au fait de manger la chair de ton frère mort. Il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا et ne médisez pas les uns des autres. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Vous en seriez répugné. Et la médisance est plus répugnante encore. Quant au colportage, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné par la suite, al-namima en arabe, il désigne le fait de rapporter les paroles des gens les uns sur les autres dans le but de semer la corruption entre eux. Et ceci également fait partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, ne rentrera pas au paradis un colporteur. Celui qui rapporte les informations des uns sur les autres dans le but de les diviser, de semer l'animosité entre eux, et ainsi de suite. Comme on le trouve chez nombre de personnes. Eh bien, tu ne sais pas ce qu'il a dit sur toi. Celui-ci a dit ceci et cela sur toi. Et ainsi de suite. Pourquoi? Dans le but de semer de l'animosité et de la corruption entre les gens, Allah al-Musta'an. Et ce colportage, c'est une cause du châtiment de la tombe. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un jour passé à côté des tombes, et il a dit, ces deux-là se font châtier. Ensuite, il a mentionné le châtiment de l'un d'entre eux, et il a dit, quant à celui-ci, il avait l'habitude de colporter les informations des gens les uns sur les autres. Et ce hadith est également rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, et autre que cela parmi les péchés qu'Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. C'est-à-dire que de manière générale, le musulman se doit de s'écarter de l'ensemble des péchés, qu'ils soient petits ou grands. Et les péchés, ils sont nombreux. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala ainsi que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala ont écrit des ouvrages au sujet des grands péchés dans lesquels ils ont mentionné les textes du Coran et de la Sunna démontrant la gravité de ces péchés desquels il incombe aux musulmans de s'éloigner. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.